Bonsoir à tous. Quelle joie de nous retrouver encore pour notre réunion d'études bibliques ce soir. Alléluia, Amen. Et je vous propose de commencer tout de suite par une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Et nous allons commencer par le verset 1. Voici ce qui est écrit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. À l'époque où se situe ce passage, Israël s'est tellement éloigné de Dieu que Dieu ne se manifeste presque plus à son peuple. Et quand on lit le chapitre précédent, le chapitre 2, on constate qu'effectivement même les prêtres ont cessé d'honorer Dieu et se sont mis, le comble, à racketter les membres du peuple qui venaient offrir des sacrifices là où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et Élie, c'est le nom du grand sacrificateur de l'époque, il est devenu très âgé, et il a à son service un jeune garçon, un enfant. Et on l'a lu, cet enfant s'appelle Samuel. Sa maman a choisi de le consacrer à Dieu en disant à propos de son fils, au chapitre 1er de 1 Samuel, au verset 28, « Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et c'est bien parce que sa maman l'a prêté à l'Éternel que Samuel, dès son plus jeune âge, était là, auprès du vieux prêtre Élie. Et puis, on revient dans 1 Samuel chapitre 3 et on arrive au verset 2. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Élie ne voit plus clair. Mais ce n'est pas parce qu'il voit plus clair qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il est parfaitement au courant des dérives d'Israël. Car ce sont ses propres fils qui en sont les acteurs. Dieu parle peu à cette époque, on l'a lu, mais Dieu s'est déjà adressé à Élie pour l'alerter au sujet de ses fils. Malheureusement, vous connaissez certainement l'histoire, Élie n'a rien fait pour résoudre la situation. Et ce soir-là, pour lui, c'était un soir comme tous les autres soirs. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Et c'est là qu'on arrive au verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Cette lampe de Dieu, elle fait peut-être référence au chandelier qui se trouve dans le lieu saint. Les prêtres avaient pour mission, notamment, de l'alimenter régulièrement en huile pour que ce chandelier ne s'éteigne pas. Et cette lampe de Dieu qui n'était pas encore éteinte peut aussi nous parler du fait que Dieu veut encore faire briller sa lumière. Mais y aura-t-il encore quelqu'un pour voir cette lumière? C'est un peu comme quand Jésus nous dit dans Luc au chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Samuel, on l'a lu, est resté couché dans le temple de l'Éternel, qui à l'époque n'est pas un temple fait de pierre, en mur bien solide, c'est encore une tente. Et Samuel est venu en fait dans le lieu de la présence de Dieu. Il s'est approché de cette lumière. Dieu lance alors un appel à Samuel. Un appel? Non, pas juste un, quatre appels. Ces quatre appels, eh bien, ils ne sont pas que pour Samuel. Sinon, on n'en aurait pas le récit dans nos Bibles. Non, ces quatre appels ont une résonance encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous allons étudier de plus près ce soir. D'accord? Amen. Alors bien, commençons par le commencement. Quel est le premier appel que Dieu lance à Samuel? Alors voici ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel au chapitre 3 et dès le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » et Samuel alla se coucher. Samuel entend l'appel de Dieu. Il a cette spontanéité de répondre à l'appel. Mais Samuel est encore jeune. Et il attribue cet appel, en fait, à la mauvaise personne. Il s'adresse à Élie pensant que c'est lui qui l'a appelé. Et parfois, on peut vivre des situations comparables. Dieu nous appelle, mais on n'a pas compris que c'était Dieu qui nous appelait. Et quand on ne comprend pas que c'est Dieu qui appelle, on a tendance à se tourner vers l'humain. Et on s'attend à trouver un écho favorable. Mais Élie, de son côté, il n'a rien entendu. Il n'a pas entendu Dieu appeler. C'est pour ça qu'il renvoie Samuel. Il ne se doute pas un seul instant que Dieu a pu appeler l'enfant. Il est humain et il donne des réponses humaines. Tout comme les êtres humains vers lesquels nous pouvons nous tourner, eh bien nous trouvons nous aussi des réponses humaines, c'est tout naturel. Mais ces réponses, elles ne sont pas satisfaisantes, elles sont limitées. Alors qu'on avait voulu se lever pour répondre à l'appel, finalement le résultat, c'est qu'on se recouche, comme Élie l'a ordonné à Samuel. C'est triste. Ce premier appel de Dieu, il est pour tous ceux qui, peut-être, ont vu leur appel de Dieu être étouffé par l'être humain. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de reprendre confiance. Ce n'est pas parce que le Élie auquel nous nous sommes adressés n'a pas entendu l'appel de Dieu sur notre vie qu'il n'y a pas eu un véritable appel. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle. Amen. Et oui, quand Dieu appelle, on a des millions de questions à lui poser. Mais ces questions, c'est au Seigneur qu'il faut les poser. C'est d'abord auprès de Dieu qu'il faut chercher les réponses à nos questions. Amen. Après ce premier appel, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a appelé Samuel une deuxième fois. Et il nous appelle une deuxième fois. On arrive au verset 6. Lisons la suite. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Lors de ce deuxième appel, tout semble se passer exactement de la même manière que la première fois. Mais la Bible nous apporte une petite précision. Et cette précision, elle a toute son importance. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. En fait, nous avons besoin d'apprendre à connaître l'Éternel. C'est en connaissant l'Éternel que nous pouvons comprendre les révélations de sa parole. Entendre sa voix, ça ne suffit pas. Il faut comprendre que c'est lui qui nous parle. Et c'est ainsi que nous pouvons recevoir la révélation dont nous avons besoin pour lui répondre. C'est une étape normale dans la vie du chrétien. Et quand on y réfléchit, c'est vrai, avant de connaître Dieu, par définition, on ne le connaissait pas. Ça semble logique. Et lorsque Dieu nous parlait à l'époque, avant que nous ne le connaissions, eh bien, c'est normal que nous ne reconnaissions pas sa voix. Mais à partir du moment où nous avons appris à connaître Dieu, nous avons commencé à reconnaître sa voix, à distinguer sa voix entre toutes les autres voix. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, mais que la voix de Dieu, elle est unique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous la même mémoire ni la même audition, mais nous reconnaissons la voix des personnes qui partagent nos vies. Ça nous semble naturel de reconnaître la voix de notre conjoint, de nos parents, de nos enfants, de nos petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors si Dieu fait partie de notre vie, si nous sommes proches de Dieu, à combien plus forte raison nous devrions reconnaître sa voix tout aussi naturellement. Amen. Recherchons donc à connaître qui est Dieu, afin de reconnaître sa voix, afin de reconnaître lorsque c'est lui qui nous parle. Ce deuxième appel, c'est un appel à nous approcher de Dieu, pour le connaître, pour connaître sa voix, pour savoir qui il est, afin que lorsqu'il nous parle, nous puissions avoir cette ferme conviction, cette ferme assurance que c'est bien lui qui nous parle. Dieu ne s'arrête pas là, car dans sa bonté, Dieu appelle une troisième fois Samuel. Et il nous appelle, nous aussi, une troisième fois. On arrive au verset 8, toujours dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel « Va te coucher ». Et si l'on t'appelle, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'attitude de Élie, elle est quand même assez surprenante ? Pourquoi est-ce que l'attitude d'Élie est si surprenante, à votre avis ? C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui révèle. Mais ce n'est pas à ça que je fais référence. Il y a un petit peu de ça. C'est lui le grand prêtre. Il y a la persévérance de Samuel, ça c'est vrai. Il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'il n'a pas la conscience tranquille, mais quand même c'est bizarre. La situation. Examinons un petit peu ce qui se passe. On peut vraiment dire que c'est surprenant parce que lors des deux premiers appels, Élie n'avait rien compris. Mais enfin, là, à ce troisième appel, il a compris et en plus, il donne des bons conseils à Samuel. On est d'accord, ce sont des bons conseils. Alors super, mais super pour ces bons conseils, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne semble pas étonné que Dieu parle à un enfant plutôt qu'à lui ? Alors que lui, il est le grand prêtre, il est le grand sacrificateur à l'époque. Ça aurait été logique que Dieu s'adresse à lui plutôt qu'à un enfant. Et pourquoi est-ce que quand il comprend que Dieu veut parler à Samuel, alors qu'on a lu tout à l'heure que la parole de Dieu, elle était rare à l'époque, pourquoi il ne fait rien pour que Dieu lui parle à lui aussi ? Il aurait pu se mettre en prière pour demander à Dieu de lui parler. Si Dieu appelle, c'est qu'il est proche. Il aurait pu accompagner même Samuel, s'il n'était pas sûr. Il accompagne Samuel et il attend que Dieu s'adresse à nouveau à l'enfant, pour lui aussi bénéficier de cet appel. Mais il ne fait rien de tout ça. Il y a d'autres passages dans la Bible où on voit des débordements de personnes qui veulent vraiment avoir cet appel de Dieu dans leur vie. Par exemple, pour donner quelques exemples, Élisée, quand il demande à Élie le prophète, c'est pas le même Élie, dans 2 Rois chapitre 2 verset 9, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lire. Ou encore quand Jésus lève les pieds de ses disciples et que Pierre demande dans Jean 13 chapitre 9, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Élisée, comme Pierre, avaient envie de recevoir toutes les bénédictions spirituelles que Dieu pouvait avoir en réserve pour eux. Mais on a l'impression que Élie, le grand sacrificateur, il n'est pas intéressé. Il donne le conseil et ça s'arrête là pour lui. Comment se fait-il qu'il ne soit pas curieux d'en savoir plus ? Alors, il y a déjà eu quelques petits éléments de réponse dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Peut-être parce que Dieu lui a déjà parlé et qu'il s'attend à entendre la même chose que ce qu'il a déjà entendu une première fois. Lui rappelant en fait son inaction vis-à-vis des dérives d'Israël et en particulier de ses fils. Ce que l'on constate en tout cas, c'est qu'il avait cette possibilité de répondre à cet appel de Dieu. Mais il a choisi au contraire de fermer ses oreilles à cet appel de Dieu. Et c'est une mise en garde pour nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous accepté le compromis? Combien de fois avons-nous volontairement choisi de ne pas faire la volonté de Dieu? Combien de fois avons-nous entendu Dieu nous parler, nous appeler, et avons-nous fermé nos oreilles? Parce que ce qu'il nous demandait ne nous plaisait pas. Pourtant, Dieu s'adresse à nous encore ce soir. Et il nous dit, comme dans Hébreux chapitre 4, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce verset de Hébreux 4, il est cité dans le contexte où l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage le lecteur à entrer dans le repos de Dieu. Au verset 9, on pouvait lire « Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Et il y a vraiment un parallèle avec ce passage entre Élie et Samuel. Car est-ce que vous savez dans quelle ville se passe la scène pour Samuel et Élie? C'est pas Jérusalem, non. C'est la ville de Silo. La question n'était pas facile parce qu'on ne l'a pas citée jusque-là. Silo, ou on peut aussi prononcer Shiloh. Vous savez ce que ça veut dire? Lieu de repos. Quand nous acceptons de nous mettre à l'écoute de Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu. Élie a choisi de se reposer d'une façon humaine et de fermer ses oreilles à la voix de Dieu. Il se prive lui-même du repos de Dieu qui est le véritable repos. Par ce troisième appel, Dieu nous encourage, au contraire, à nous mettre à son écoute. N'endurcissons pas nos cœurs. Mais entrons dans le repos de Dieu. Amen. Dieu appelle, oui. Dieu nous appelle, et il est déjà appelé trois fois. Mais Dieu ne se lasse pas. Moi, si j'appelle trois fois et que j'ai un répondeur à chaque fois, je ne suis pas sûr de rappeler une quatrième fois. Mais lui, Dieu ne se lasse pas. Il continue de nous appeler, et il nous appelle une quatrième fois. On est au verset 10, toujours dans 1 Samuel chapitre 3. L'Éternel vint se tenir près de lui, près de Samuel, et appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Dieu nous connaît par notre nom. Amen. C'est par notre nom qu'il nous appelle. Quand il est question, d'ailleurs, c'est amusant, quand c'est écrit que Dieu vint se tenir près de Samuel. Certains commentateurs pensent que Samuel n'a pas fait que entendre l'appel, mais qu'il a vu aussi physiquement l'auteur de l'appel. C'est une hypothèse. En tout cas, ça peut nous permettre de nous poser cette question. Est-ce qu'on est prêt à nous laisser surprendre par Dieu? Sommes-nous prêts à la surprise de Dieu? Samuel, lui, il était prêt. Il a suivi le conseil. Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel ne s'est pas contenté d'entendre le conseil qui lui était donné. Il l'a mis en pratique. C'est essentiel. Il a accepté que Dieu lui parle. Il a accepté d'écouter, bien sûr. Et en faisant cela, il est entré dans une nouvelle dimension, la dimension de la révélation. Aspirons-nous aussi à entrer dans cette dimension de la révélation de Dieu. On aspire tous à ça, cette révélation. Ça ne veut pas dire que les révélations, elles sont forcément faciles. Pour Samuel, ce qui lui a été révélé n'a pas été vraiment facile à entendre, ni à répéter à Élie lorsque le matin est venu. Voici la révélation que Dieu a donnée à Samuel. On est au verset 11. « Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui la prendra en restera abasourdie. » Dieu a des surprises. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai, je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. C'est une parole qui est dure. Mais c'est une parole qui avait déjà été donnée à plusieurs reprises à Élie. Et face à cette révélation, Élie et Samuel n'ont pas du tout la même attitude. Malheureusement, même là, Élie n'a pas semblé réagir. Tout ce qu'il répond à Samuel, lorsque Samuel lui répète ce qu'il a entendu de la part de Dieu, Élie dit « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Et au chapitre suivant, nous lisons comment la parole de Dieu s'est accomplie. Ses deux fils sont morts le même jour, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et Élie lui-même est mort en apprenant la nouvelle. Élie aurait pu se repentir. Il aurait pu changer de cap, changer d'attitude. Mais Dieu lui aurait fait grâce. Dieu avait fait grâce à la ville de Ninive quand Jonas est venu prêcher. Dieu veut faire grâce. Mais Élie a refusé ça. Et Élie est mort en persévérant dans sa mauvaise attitude. Quant à Samuel, c'est tout le contraire. Au verset 19, on peut lire que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Deux attitudes complètement différentes et deux destinées complètement différentes. Soyons encouragés à agir comme Samuel. Bien sûr, prenons très au sérieux la révélation de Dieu. Ça a transformé sa vie entière. Et tout le monde s'est rendu compte de la transformation vécue par Samuel. Ainsi, ce quatrième appel, c'est un appel vraiment à entrer dans la dimension de la révélation de Dieu et à prendre au sérieux ces révélations qu'il nous donne. C'est comme ça que nous verrons nos vies transformées par sa parole. Amen. Ce soir, Dieu nous a lancé ces quatre appels. D'abord, Dieu nous appelle à rechercher les réponses auprès de lui. Ensuite, Dieu nous appelle à nous approcher de lui pour le connaître personnellement et apprendre à reconnaître sa voix. Dieu nous appelle encore à nous mettre à son écoute avec cette recommandation « N'endurcissons pas nos cœurs, ni nos oreilles. » Écouter Dieu, c'est entrer dans son repos. Amen. Et enfin, Dieu nous appelle à recevoir sa révélation. Et ne prenons pas les choses à la légère. Prenons au sérieux ce que Dieu nous révèle. Et ainsi, nous verrons nos vies transformées. Et tout le monde verra que Dieu a été l'auteur de cette transformation. Nous deviendrons un témoignage vivant à sa gloire, afin de conduire de nombreuses autres personnes à entrer dans cette dimension à leur tour. Amen. Alors baissons nos têtes. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour cet exemple de Samuel, Seigneur. Merci pour ces quatre appels que tu lances sur nos vies. Et Seigneur, nous voulons les retenir et nous voulons répondre comme Samuel l'a fait. Seigneur, me voici. Seigneur, je veux entendre ce que tu as à me dire. Seigneur, je veux mettre en pratique ce que tu as à me dire. Oui, Seigneur, des questions, il y en a tellement, mais c'est à toi que je veux les poser. C'est à toi que nous voulons les poser, Seigneur. C'est toi que nous voulons connaître. C'est ta voix que nous voulons reconnaître, Seigneur mon Dieu. Oui, conduis-nous, Seigneur éternel, à nous approcher encore plus de toi, à venir au plus près de toi, Seigneur, pour pouvoir reconnaître qui tu es, reconnaître ta voix lorsque tu nous parles, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton écoute. Seigneur, garde-nous d'endurcir nos cœurs ou nos oreilles. Que nous puissions, oui, rester toujours dans cette attitude d'humilité, Seigneur, à ton écoute, recevant ton enseignement. Seigneur, mais pas seulement écouter, mais aussi mettre en pratique, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans ton repos, afin que nous puissions recevoir ta révélation, que nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension de révélation que tu veux pour nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est vrai, ces révélations que tu as faites à Samuel, elles étaient difficiles à entendre. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement de pouvoir prendre au sérieux ta révélation, de pouvoir, Seigneur, en tenir compte, de pouvoir, Seigneur, la partager d'une bonne manière afin que ce soit ta gloire qui puisse rayonner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la transformation que tu opères dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que cette transformation, elle ne vient pas de nous, elle vient de toi. Elle vient, Seigneur, de ton esprit que tu fais habiter en nous. Oui, merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta gloire que tu veux faire rayonner au travers de nos vies. Merci, mon Dieu, pour tout. Amen.